une histoire particulière. Hier, dans notre histoire du week-end, Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre vous ont raconté l'histoire d'Harriet Tubman. Harriet est née esclave autour de 1820 et travaille dès ses 6 ans comme domestique, puis dans les champs. Elle endure pendant des années le traitement inhumain que lui firent subir différents maîtres. En 1849, elle rejoint les membres de l'Underground Railroad, un réseau clandestin moyen mis en place pour fuir vers le nord. Militante en faveur de l'abolition de l'esclavage afro-américain, ses actions permirent l'évasion de nombreux esclaves et lui valurent le surnom de Moïse Noir. Aujourd'hui, sur fond de gospel, nous retrouvons Harriet Tubman et les chants de ralliement de l'ancienne esclave.
Les cadavres pendaient aux arbres comme des ornements pourrissants. Blood on the leaves.
Certains étaient nus, d'autres à demi vêtus. Le fond de pantalon noirci d'excréments attestant que leurs intestins s'étaient vidés à l'instant où leur nuque s'était rompue.
Black body swinging in the southern breeze.
Harriet Tubman, la Moïse noire de l'Amérique.
Strange fruit hanging.
Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre.
From the poplar trees.
Underground Railroad, c'est... Le chemin de fer, le chemin des fugitifs, la voie suivie par des Noirs pour s'échapper des États du Sud, mais c'est aussi le titre d'un roman de Colson Whitehead, auteur américain, qui a donc reçu pour ce roman le National Book Awards en 2016, le prix Pulitzer Littérature en 2017. Et c'est vous, Serge Chauvin, qui avez traduit cet opus majeur dans son œuvre.
C'est quelqu'un qui est de ma génération, qui est né en 69, noir, new-yorkais, très citadin, très contemporain. Et même si l'histoire a toujours travaillé ses romans, là, il y avait un choc nouveau dans ce texte lié à son ancrage historique, au faussement historique, et aussi une sorte de resserrement vraiment sur le personnage de l'esclave fugitive, Cora, et une sorte d'urgence, de rage sèche de l'écriture. Et il y avait quelque chose de vraiment saisissant, avec une violence d'autant plus bouleversante, celle des lynchages, celle des tortures infligées dans les plantations, etc., qu'elle était décrite très froidement et vue par un personnage qui n'a pas le temps de s'apitoyer.
Pastoral scene.
D'horribles plaies et blessures marquaient la chair des deux corps les plus proches. Ceux qu'éclairait la lanterne du chef de gare. L'un avait été castré et une bouche hideuse béait à la place de ses organes virils. L'autre était une femme, au ventre arrondi. Cora n'avait jamais été très douée pour déterminer en voyant le corps d'une femme si celle-ci était enceinte. Leurs yeux protubérants semblaient réprouver son regard. Mais que pesait l'intention d'une jeune fille dérangeant leur repos face à ce que le monde leur avait infligé depuis le jour de leur naissance.
Cora, plantons le décor. Cora, c'est la petite fille d'Adjari,
oui.
Qui, elle, est venue vendue comme esclave depuis l'Afrique,
oui.
Depuis le Ghana, et qui arrive donc dans le sud des États-Unis. Qui est Cora, qui pourrait être la Harriet Tubman dans la fiction, finalement, de Colson Whitehead.
A priori, ça n'est pas quelqu'un qui en même temps est porté vers l'évasion, elle n'y croit pas au départ, et puis finalement elle est à la fois témoin d'exactions, étonnée de sa propre révolte face à ces exactions, et puis d'un seul coup une rencontre, là cette fois la rencontre d'un homme, lui fait entrevoir la possibilité peut-être de s'échapper et de rejoindre ce fameux Underground Railroad.
Donc Adjari, c'est la grand-mère, Mabel, c'est la mère. Cora, c'est la petite fille. Et dans votre traduction, je voudrais qu'on s'arrête juste sur ce passage de ces 3 mètres carrés dont a hérité Cora, donc ce petit lopin de terre. Et Colson Whitehead, traduit par vous-même, Serge Chauvin, écrit « Les trois couloirs entre deux huttes offraient un espace où attacher une chèvre, construire un poulailler, faire pousser de quoi se remplir l'estomac et compléter la bouillie dispensée chaque matin par la cuisinière. » Et c'est ce lopin-là que Cora va fuir, comme Harriet Tubman va fuir sa condition d'esclave, Et elle rejoint donc ce réseau souterrain, Underground Railroad, mais qui n'est pas, dans la réalité, un vrai chemin de fer.
C'est l'idée de Whitehead, mais qui vient aussi d'un étonnement d'enfant, parce qu'en fait, bon, bien sûr, Underground Railroad, en anglais, cette expression était une métaphore. Donc, underground au sens simplement de résistance clandestine, et puis Railroad, donc, parce que, justement, comme ça transportait les esclaves presque magiquement, pouvait-on espérer, et puis... Railroader, dans l'anglais, ça veut dire détourner de son chemin, en fait, y compris parfois dans un sens négatif. Et Carson Whitehead a raconté qu'étant enfant, quand il entendait parler justement de Underground Railroad, lui pensait que c'était un vrai chemin de fer souterrain. Et donc, il a rêvé à cette idée. Et puis, quand il est devenu écrivain, il s'est dit, un jour, j'aimerais bien, quand je serai assez mûr littérairement pour le faire, quand je pourrai rendre justice à la réalité, à l'horreur de l'esclavage, littérairement, ben j'aimerais bien exploiter cette idée.
Les deux fugitifs grimpèrent dans le wagon et Lumbly claqua brusquement la portière. Il les regarda entre les fissures du bois. Si vous voulez voir ce qu'est vraiment ce pays, comme je dis toujours, il n'y a rien de tel qu'un voyage en train. Regardez au dehors quand vous filerez à toute allure. Vous verrez le vrai visage de l'Amérique. Il asséna une grande claque sur la paroi du wagon pour donner le signal du départ. Le train s'ébranla par à-coup, cahotant. Cora et César perdirent l'équilibre et titubèrent jusqu'au nid de balles de foin qui devait faire office de siège. Le wagon craquait et tremblait. Il n'avait rien d'un modèle récent. Et maintes fois au cours du voyage, Cora crut bien qu'il allait se disloquer. Il était vide, hormis le foin, des souris mortes, des clous tordus. Plus tard, elle découvrit un bout de plancher calciné à l'endroit où quelqu'un avait fait du feu. César était hébété par cette succession d'événements insolites. Et il se coucha à même le sol, replié sur lui-même. Conformément aux dernières instructions de Lumbly, Cora regarda entre les lattes. Il n'y avait que des ténèbres, kilomètre après kilomètre.
Et donc, on se retrouve effectivement avec ce réseau ferroviaire souterrain, avec des gares auxquelles on accède par les caves de cabanes, donc un peu partout dans le sud, et réseau administré notamment par des blancs abolitionnistes, des Quakers notamment, et bien sûr qui risquent leur vie d'ailleurs, en aidant ces fugitifs, surtout bien sûr dans le sud. Et ce qui se passe, c'est que donc on a ces trains brinque-ballants improbables dans ce réseau tentaculaire qui court sous le territoire américain, construit par des Noirs, comme tout en Amérique, dit à un moment l'un des personnages. Et on peut savoir quand le train va venir approximativement, mais on ne sait pas où il va vous conduire, à quel arrêt il va vous conduire, et il ne va pas directement vers le nord, libre, anti-esclavagiste, mais il y a aussi des haltes dans les états esclavagistes. Et donc, c'est là où autant la peinture de la plantation est extrêmement réaliste et documentée, autant à partir du moment où le Underground Railroad prend sa dimension concrète de chemin de fer souterrain, là, du roman historique, on bascule dans l'Uchronie. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que on ne sait pas exactement à quelle époque ça se passe. On est dans un sud qui n'est pas documentaire, et on est dans une période imprécise de la fin du 19e siècle où la guerre de sécession n'a pas eu lieu. Mais on ne s'en aperçoit que très progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, on a des éléments technologiques comme ce chemin de fer souterrain qui sont non seulement imaginaires, mais techniquement impossibles pour l'époque. Mais ensuite, on s'aperçoit qu'on a déjà des ascenseurs dans des immeubles de 10 étages, etc. Et donc, on bascule dans une peinture hallucinatoire et allégorique. Même si elle garde, bien sûr, son ancrage dans la réalité de la condition noire au 19e siècle.
Donc, si on poursuivait la métaphore de Colson Whitehead, donc il part d'un réseau souterrain qui n'existe pas, il en fait un vrai réseau souterrain, est-ce qu'on pourrait dire, en reprenant votre adjectif brinque-ballant, que le vrai réseau, c'est un réseau de chants, de gospel, de spirituals, qui les emmène vers la liberté, puisque ils se donnent comme consigne des chants qui sont eux-mêmes codés pour aller dans tel endroit à tel endroit.
L'utilisation codée du chant, notamment du chant religieux, bon, c'est une réalité, bien sûr, de l'époque. Bon, on sait, bien sûr, que, a priori, les chants d'origine africaine, les musiques d'origine africaine étaient proscrites dans les plantations. Et il y a eu une christianisation forcée, mais ensuite, bien sûr, il y a toujours les métaphores bibliques de l'exode, du retour vers la terre promise, etc., deviennent bien sûr des métaphores justement pour l'espoir d'une libération, soit dans l'au-delà, soit au mieux d'une émancipation. Et effectivement, il y a cette dimension-là, en filigrane, donc comme une basse continue, on pourrait dire, justement, dans le roman. Et ce qui est intéressant aussi avec le chant, c'est que c'est souvent un chant de nature collective. Et Cora, c'est aussi un personnage qui, au départ, n'est préoccupé que de survie individuelle, qui ne veut pas s'attacher parce qu'elle sait trop que dans ce monde-là, on perd les êtres chers, et qui, en même temps, se retrouve à nouer des liens, à découvrir l'existence d'une solidarité, donc aussi bien, effectivement, celle inattendue de Quakers Blancs ou d'autres sympathisants de la cause noire, et puis aussi, oui, la perspective, peut-être, d'une communauté plus vaste.
Denis Constant-Martin, vous êtes chercheur et vous avez travaillé de nombreuses années sur les musiques afro-américaines. Si on faisait un petit état des lieux avec vous de l'art vocal, on pourrait dire, chez les esclaves.
L'apparition des chants, ce qu'on va appeler les spirituals, les chants spirituels, date des grands réveils religieux qui déferlent sur les États-Unis entre le milieu du XVIIIe siècle et surtout à partir du XIXe siècle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a des relations qui signalent que les esclaves chantent énormément de chants spirituels, que les chants spirituels se sont substitués à des chants de travail qui n'étaient pas religieux du tout auparavant. Alors ce qui est attesté, c'est qu'ils jouent du banjo, surtout du violon et des petites percussions. Les instruments d'origine africaine qui ont pu être reconstitués aux États-Unis, pas emportés, disparaissent très très rapidement au cours du XVIIIe siècle.
Est-ce qu'on pourrait avec vous décrire les ring shouts ?
C'est pas simplement des chants, c'est un ensemble de comportements à la fois corporels et vocaux qui sont pratiqués pour l'essentiel sur la côte et dans les îles qui bordent la côte de la Caroline du Sud et de la Géorgie. Ce sont des rondes au cours desquelles sont chantées ou psalmodiées des paroles sacrées. Il y a des gens qui forment une ronde et il y a des gens qui sont autour d'eux, qui frappent des mains, qui tapent des pieds, qui forment un accompagnement rythmique et qui chantent éventuellement pour accompagner ceux qui sont dans le cercle.
Est-ce qu'on pourrait, avec vous, Denis Constant-Martin, établir la différence entre gospel et spiritual ?
Si vous voulez, les spirituals sont des chants apparus spontanément, issus d'une création collective pendant l'esclavage. Ce sont donc des chants qui étaient transmis oralement, dont les paroles pouvaient changer, dont les mélodies pouvaient changer, et qui n'avaient pas nécessairement un titre, ce qui rend très très difficile l'identification des chants qui ont pu être exécutés avant qu'on commence à les noter systématiquement, c'est-à-dire avant le début de ce que les Américains appellent la guerre civile, ce que nous appelons la guerre de sécession. Les gospel songs sont des chants qui sont signés, dont les droits d'auteur sont déposés, qui apparaissent dans les années 1920-1930, surtout à l'instigation d'un chanteur-compositeur extrêmement renommé dans le monde du chant religieux afro-américain, Thomas Dorsey.
Donc ça, c'est pour les gospels. Et les spirituals, c'est la vie.
Ça dépend ce qu'on entend. C'est la vie de la personne dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est à la fois sa vie spirituelle et sa vie dans le monde réel, dans le monde de l'esclavage. Ce qui caractérise les thématiques des spirituals, c'est un message de salut dans l'au-delà, de rédemption qui est indissociable d'une idée d'émancipation dans le monde d'ici-bas. Les esclaves mettaient en œuvre toutes sortes de procédés qui leur permettaient de desserrer un peu l'étau de l'esclavage. Et il y avait donc effectivement des messages qui passaient entre les rangs des travailleurs ou parfois même au sein d'un atelier, puisqu'il y avait des esclaves artisans également, parfois même d'une plantation à une autre. Il y avait des chants qui au cours de diverses occasions, que ce soit dans le travail ou dans des sortes de fêtes qui étaient organisées sur les plantations, notamment à partir du moment où on a développé les plantations de maïs et qu'il y a eu des grandes fêtes organisées pour l'effeuillage du maïs, ce qu'on appelait le corn shucking, et qui se terminait par des chants, de la danse, et dans ces cas-là, il y avait à la fois un hommage qui était rendu au maître de plantation, mais également des couplets qui se moquaient de lui, parfois même en sa présence. Et c'était considéré, ça n'était pas un carnaval, mais il y avait un peu cet esprit carnavalesque de pouvoir faire des choses et dire des choses qu'on ne dit pas habituellement.
Denis Constant-Martin, Henriette Tubman a pris la tête, est devenue celle qui conduit les esclaves fugitifs vers le nord en utilisant des spirituals, des chants, codés eux aussi. Et je voudrais qu'on s'arrête sur l'histoire de celui qui s'appelle, et qui est très connu, Sweet Chariot. Swing low, sweet chariot,
coming for to carry me on. Henriette Tubman est née dans le Maryland. Elle a été très rapidement convertie au méthodisme. Et c'est dans l'église méthodiste afro-américaine, African Methodist Episcopal Zion Church, qu'elle a pratiqué et qu'elle a milité. Ce qu'a fait Harriet Tubman est relativement rare, c'est-à-dire qu'elle partait d'une plantation avec un individu ou un groupe d'esclaves et qu'elle les conduisait en général du côté de Philadelphie, en passant la Mason-Dixon Line, qui était la ligne de séparation entre les États esclavagistes et les États non-esclavagistes. Et elle faisait ça en partant du Maryland, qui était donc un des États jouxtant la Mason-Dixon Line. Sur le fait qu'elle ait utilisé des spirituals dans le cadre des évasions qu'elle organisait, on n'a quasiment pas de données, hormis celles qu'elle a fournies elle-même. Et elle dit qu'elle a utilisé certains spirituals, où elle les a fait chanter plutôt pour annoncer les évasions que pour les guider, ou parfois pour donner des conseils. Alors, le chant « Swing Low, Sweet Chariot », il est attesté avant l'émancipation, avant 1860. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le thème du chariot, et qu'on va retrouver dans un grand nombre de spirituals. Et ce thème du chariot, il peut renvoyer à plusieurs choses. Il renvoie d'une part au chariot. Alors, le chariot a pratiquement toujours un mouvement ascendant. Il renvoie à l'espoir du salut, l'idée de monter au ciel, et donc la rédemption spirituelle. Mais ça peut être monter vers le ciel, mais ça peut être aussi monter vers le nord pour les esclaves qui étaient donc dans les états du sud.
Les deux premiers vers, c'est « Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home ». Donc si on adapte ces deux vers à l'Underground Railroad, il arrive, le réseau, il va me transporter vers la maison, vers la liberté, vers le nord.
Oui, mais ça c'est une des interprétations possibles. L'autre interprétation étant que « home » signifie « mon foyer véritable, qui n'est pas le foyer de ce monde où je suis réduit en esclavage, où je ne suis pas traité comme un être humain, mais le foyer de l'au-delà, le foyer du ciel, où je serai véritablement reconnu comme une personne pleine et entière. » Et on sait par exemple qu'un certain nombre d'esclaves se sont évadés en volant une charrette. Et donc, ça peut être aussi cette charrette-là. Les modes d'évasion étaient extrêmement divers. Certains partaient à pied, certains volaient des chevaux, certains volaient des charrettes, et un certain nombre sont également partis par bateau quand ils habitaient des états ou qui n'étaient pas très loin d'une côte. Et il y a eu un certain nombre de capitaines qui ont emmené des esclaves fugitifs, soit par bonté d'âme, soit contre paiement, jusqu'à New York ou jusqu'à Boston.
Nos ancêtres sont venus de toutes les régions du continent africain. Ils avaient des coutumes différentes, des moyens de subsistance différents. Ils parlaient 100 langues différentes. Et ce grand mélange a été emmené vers l'Amérique dans les cales des navires négriers. Leurs fils et leurs filles ont récolté le tabac, cultivé le coton, travaillé dans les plus vastes domaines et les plus petites fermes. Nous sommes des artisans, des sages-femmes, des prêcheurs et des colporteurs. Ce sont des manoirs qui ont construit la Maison Blanche, le siège de notre gouvernement national. Ce mot « nous », nous ne sommes pas un peuple, mais une multitude de peuples différents. avec des millions de désirs, de vœux et d'espoirs pour nous-mêmes et pour nos enfants.
Serge Chauvin, Colson Whitehead, il a écrit ce roman, donc Underground Railroad, dans les années 2014-2015.
Oui.
Vous parlez d'Uchronie. Est-ce qu'on peut y voir aussi quelque chose qui a à voir avec le mouvement qui était à l'époque des Black Lives Matter, le mouvement des Noirs qui disent on en a marre de se faire tirer dessus et de voir que le combat d'Harriet Tubman, ancienne esclave pour devenir libre, n'a jamais cessé. Les Noirs sont libres aux États-Unis, mais sont libres de se faire tuer par des policiers blancs.
Le relatif tournant littéraire qu'a pris Cosson depuis Underground Railroad a à voir effectivement avec cette actualité brûlante. Son nouveau roman Nickel Boys en fait est inspiré d'une histoire vraie, mais d'une maison de correction dans le sud des années 60, donc au moment de l'imposition des droits civiques, qui continuait à pratiquer la ségrégation, la torture, les assassinats sommaires, etc. Et donc en fait, ce détour par le passé récent ou lointain sert justement, là encore, d'allégorie pour la condition noire actuelle. Et ce qui est très intéressant, en fait, plus largement, dans le Sud semi-imaginaire que décrit Whitehead, donc dans cette Uchronie, c'est qu'en fait, quand Cora, au gré des arrêts où la débarque le chemin de fer souterrain, donc de Caroline du Sud en Caroline du Nord, donc elle est partie de sa plantation était en Géorgie, mais ensuite, dans les divers états où elle peut faire étape, en fait, ce Sud n'est pas du tout homogène. Mais comme dans la réalité d'avant la guerre de sécession, en fait, il décline les diverses formes de racisme institutionnel auxquelles l'humanité, d'ailleurs plus généralement, a pu être confrontée au 19e, au 20e siècle. C'est-à-dire qu'on a aussi bien la pratique de l'extermination et du nettoyage ethnique, donc cette expression ignoble, qu'une apparente acceptation qui déguise des pratiques eugénistes, des expériences des zoos humains, des expériences médicales dignes de Mengele, dans un état qui donne faussement un meilleur statut aux Noirs, et même lorsqu'elle se retrouve hors des états d'esclavagistes dans l'Indiana, où s'est fondée une communauté justement de Noirs affranchis ou évadés surtout, qui essaye de construire une sorte d'utopie, cette utopie est en but à l'hostilité, la jalousie et potentiellement la violence de ses voisins blancs.
Car nous sommes des Africains en Amérique. Une chose sans précédent dans l'histoire du monde. Sans modèle pour nous dire ce que nous deviendrons. La couleur doit suffire. Elle nous a amenés à ce soir, à ce débat. Et elle nous conduira vers l'avenir. Tout ce que je sais, au plus profond de moi, c'est que dans l'élan comme dans la chute, nous sommes un. Une seule famille noire qui vit en voisine d'une seule famille blanche. Certes, nous ignorons peut-être quel chemin emprunter dans la forêt, mais nous pouvons nous soutenir mutuellement quand nous fléchissons. Et c'est ensemble que nous arrivons à bon port.
Ce mot d'ordre d'Harriet Tubman, qui date de 1869, va trouver un drôle d'écho le 19 mars 1988. On est sur le stade de Twickenham. Le cadre, c'est le tournoi des cinq nations entre l'Angleterre et l'Irlande. La suite, c'est vous, Olivier Villepreux, journaliste notamment sportif, qui l'a raconté.
L'Angleterre reçoit l'Irlande. Et il se trouve que cette année-là, les Anglais ne jouent pas bien, ont des mauvais résultats. Ça fait même d'ailleurs 7 ans que ça dure. Ils n'ont pas gagné le tournoi depuis 7 ans. Ils sont menés 3-0 à la mi-temps et le match est ennuyeux au possible. Les spectateurs qui sont à Twickenham, eux-mêmes s'ennuient un peu. Et d'un coin d'une tribune, quelques gens se mettent à chanter. C'est un chant qui a une tonalité un peu religieuse, quoi. On ne sait pas ce que c'est. Les joueurs témoignent d'ailleurs plus tard avoir entendu ce chant se propager doucement dans le stade. Mais toujours est-il qu'en deuxième mi-temps, ce chant va prendre de l'ampleur. Dès la rentrée sur le terrain, les Anglais se mettent à changer de jeu. Ils se mettent à jouer très très bien. Un jeu de passes vif, rapide, des courses croisées, des choses incroyables. Et un des acteurs de cette renaissance vraiment subite des Anglais est dû à un joueur qui s'appelle Chris Oti, qui est un étudiant de Cambridge, qui a 23 ans et qui est noir. Et là, il va réaliser un triplé. Donc ce petit exploit personnel est retentissant en soi. Mais ce qui est vraiment curieux, c'est que ce chant qui est un peu une espèce de chant comme ça, lancinant, un chant de procession, un peu comme si on suivait un enterrement en fait, prend de l'ampleur et prend une autre tonalité parce que finalement on se rend compte que tout le monde le connaît ce chant. Et à la fin tout le stade chante ça, l'Angleterre va gagner largement 35-3 et maintenant il s'agit de savoir... Qu'est-ce qui a fait coïncider en fait l'exploit de ce joueur noir, Chris Ottee, et la naissance dans les tribunes de cette espèce d'hymne comme ça, Swing Low Sweet Chariot, qui est maintenant évidemment devenu un tube interplanétaire et qui est surtout l'hymne des supporters anglais. Il faut dire que c'était pas gagné d'avance que ce chant arrive à conquérir le cœur des supporters anglais, parce que il faut savoir que ce texte, qui ressemble quand même quand il est interprété aux États-Unis fortement à un gospel quand même. Et en fait, l'œuvre, en tout cas l'invention, d'un esclave, non pas noir, mais indien. Wallace Willis, qui avait été déporté du Mississippi dans l'Oklahoma, et qui, une fois affranchi, en fait, face à la Red River, que tous les amateurs de western connaissent bien, a eu cette inspiration et a cru voir le Jourdain, et donc s'est enflammé en racontant une histoire comme ça, de chariot qui emporte son corps vers sa dernière demeure. À ce moment-là, quand le phénomène se produit à Twickenham, on ne sait pas tout ça, évidemment. Et donc, c'est en cherchant bien plus tard qu'on a l'explication. C'est qu'en fait, ce sont des étudiants. Les étudiants en question proviennent d'une université catholique. Et il se trouve que l'université de Upper Wellington est en fait l'héritière de ce qu'on a appelé en fait le collège anglais de Douai. Qui a un lien avec la France en plus, vous voyez, c'est très compliqué. Du 16e jusqu'à la Révolution française, en fait, le clergé anglais était formé parce qu'il était tout simplement persécuté en Angleterre. Une fois la Révolution arrivée, la tête du roi coupée, ils ont pu rentrer chez eux et donc ont fondé cette université. Donc ce sont des étudiants de cette université donc qui s'ennuyaient au début du match, qui ont commencé à chanter Swing Low Sweet Chariot, et il se trouve que ça a été repris parce qu'à l'époque en 88 Swing Low Sweet Chariot est quand même un tube déjà, on peut dire ça a été repris par plein d'artistes, Elvis Presley par exemple l'a chanté, Johnny Cash, bon,
Sam Cooke,
une version que j'adore. Cette chanson, elle est, si on n'en connaît pas l'origine, elle n'est pas inconnue non plus.
Ce que vous nous dites, Olivier Villepreux, c'est que Swing Low, Sweet Chariot, écrit par un Indien, repris par des Noirs qui s'en allaient de leur sud où sévissait l'esclavagisme, repris par Harriet Tubman qui a aidé d'autres à s'enfuir, repris par une école catholique où on entend le mot persécuté parce que les prédécesseurs étaient persécutés pour vivre leur foi, est devenu l'hymne officieux du 15 de la Rose. Tubman, la Moïse noire de l'Amérique, avec le chercheur en musique noire Denis Constant-Martin, Serge Chauvin, traducteur du roman de Colson Whitehead, Underground Railroad, et le journaliste Olivier Villepreux. Extrait de la biographie d'Aria Tubman, écrite en 1869 par Sarah Hopkins Bradford, et du roman de Colson Whitehead, dit par Gigi Ledron. Recherche musicale, Virginie Grasset. Prise de son, Jean-Michel Bernot. Mixage, Olivier Dupré. Réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour la naissance d'un écrivain imaginaire. Mais c'est une autre histoire.